Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la 20e édition de notre cycle Les Dor Vador, la musique hébraïque des générations en générations. Bonjour Léo.
Bonjour.
Après avoir consacré 4 émissions à la musique du grand Louis Lewandowski et avoir montré à quel point il constitue un sommet dans l'art musical de la synagogue, mais aussi de la musique juive en général, nous allons présenter aujourd'hui la musique des deux compositeurs qui ont succédé Lewandowski dans les domaines de la musique hébraïque en Allemagne. Le premier de nos musiciens s'appelle Emmanuel Kirchner, de son nom hébraïque Menachem ben Aaron. Et Léo va nous illustrer un peu sur la vie de ces magnifiques musiciens de synagogue.
Oui. Donc, il est né en 1857 à Rockitnitz Oberschlesien.
Qu'est-ce qu'il prononce bien.
C'est
Oberschlesien, voilà, c'est ça.
Dans une famille de maîtres boulangers. Et Emmanuel était un parmi les 8 enfants du couple Kirchner.
Voilà.
Donc, à 11 ans, il devient l'élève du cantor Josef Singer, qui va alors le prendre sous sa protection. 6 ans plus tard, Kirchner est admis au séminaire d'enseignants de Berlin. Et 5 ans après, il sera engagé comme second chazan de la grande synagogue, Oranienburgstrasse.
Très bien, Oranienburgstrasse.
Lorsque l'adjoint du célèbre cantor Jacob Lichtenstein doit quitter son poste en raison de maladie. C'est ainsi que Kirchner a le privilège de travailler auprès du grand Louis Lewandowski.
Voilà.
Et au départ, leur relation était cordiale, mais vite les tensions s'installent entre les deux musiciens. Donc, et Kirchner ne restera pas plus que 2 ans dans son poste berlinois. En 1881, il quitte Berlin pour s'installer comme chazan à Munich. Et lors de sa construction en 1887 de la nouvelle synagogue, il est nommé premier cantor. Il va donc passer 47 ans à officier à Munich et encore 10 ans supplémentaires après sa retraite. En sa qualité de cantor honoraire.
Mais tu te rends compte, 57 ans dans la même synagogue. Mmh. Aujourd'hui, c'est difficile à imaginer.
Il meurt en 1938, un an avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, Kirchner raconte dans son journal que lors d'une rencontre avec Lewandowski en 1893, l'année avant la disparition de celui-ci, il était clair pour lui que Lewandowski avait tout fait pour l'éloigner de Berlin. Comme il avait fait avec d'autres musiciens qui risquaient de lui faire de l'ombre.
Et oui, ça manque jamais, les jalousies, les craintes comme ça.
Il raconte aussi avoir trouvé Lewandowski en pleine dépression devant le fait imminent de sa retraite proche.
Et oui, très bien Léo, nous avons donc un nombre important de renseignements sur ces personnages importants, sans doute Emmanuel Kirchner. Je vous propose maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, d'écouter et un premier bel exemple de la musique de Kirchner. Il s'agit du Vidouï, la prière des confessions, qui est extraite de l'office de Yom Kippour, les jours du grand pardon.
Thank you.
Tu as constaté, Léo, que nous sommes loin, et pas tellement loin, de l'esthétique musicale de Lewandowski. Loin parce que cette musique, tout en sonnant dans un style similaire, est plus moderne. Ouais. On entend des accords différents, on entend un traitement musical, entre guillemets, plus évolué, en tout cas plus varié, qui va plus loin de ce que Lewandowski avait proposé dans la génération précédente. Et précédente. Donc, on entend aussi que Kirchner s'inscrit ici dans la continuité stylistique de la musique synagogale impulsée par Zulzer et continuée par Lewandowski, mais que le lyrisme de Kirchner est bien perceptible dans son attachement à l'utilisation d'air traditionnel ashkénaz, tout comme ses prédécesseurs l'avaient fait. Dans un temps plus joyeux, je propose maintenant à tous les auditeurs d'écouter Mi Homojo, qui est la prière des conclusions du Cantique de la Mer Rouge, qui est tirée de la liturgie des offices du soir. La prière dit « Qui est comme toi parmi les dieux, mon Seigneur ?» Et « Qui est comme toi, sublime en sainteté, supérieur à toute louange, tu opères des miracles. » Après cette première section, d'un caractère un peu exalté, vous allez l'entendre, la seconde partie du texte est traitée avec un doux lyrisme du style bel canto, donc proche de l'opéra. Et le texte dit « Lorsque devant Moïse tu as fendu la mer, tes enfants reconnurent ta royauté et tous s'écrièrent « C'est notre Dieu ». Les deux morceaux qu'on vient d'entendre sont interprétés ici par les Polyphonies hébraïques de Strasbourg et tirés des publications de Kirchner qui ont été éditées en 4 volumes entre 1897 et 1926 sous le nom de Tehillot Le'el Elyon, avec le sous-titre Synagogen Gesang, ce qui veut dire louange pour Dieu le suprême, chant pour la synagogue. Et c'est un recueil des chants pour chœur mixte, soliste et orgue tel qu'il se pratiquait, notamment à la synagogue, la grande synagogue de Munich, à l'époque de Kirchner, mais aussi à Berlin, sous Lewandowski. À présent, je propose, Léo, de découvrir un autre musicien parmi les nombreux compositeurs de musique synagogale qui étaient actifs en Allemagne avant la Shoah et dont on a perdu en grande partie la trace à partir de la Nuit des Cristals en 1938, lorsque les archives, les éditions musicales et bien entendu des milliers de livres et des centaines de synagogues furent brûlés par les nazis dans l'année qui a précédé les débuts de la guerre. Il s'agit donc du cantor Moritz Henle, natif de la ville de Laupheim, dans la principauté de Wurtemberg, donc région voisine de l'Alsace. Vas-y Léo, tu vas nous illustrer un peu sur ces personnages, Moritz Henle.
Donc Moritz Henle développe une belle carrière dans la musique synagogale, d'abord dans sa ville natale, puis à Ulm et enfin à Hambourg, où il meurt en 1925 à l'âge de 75 ans. Henle représente un exemple typique du musicien de synagogue talentueux qui est engagé dès son jeune âge par sa communauté d'origine et qui retrouve les meilleures conditions pour exprimer son talent au service de communautés qui accordent une grande importance à la vie musicale de leur synagogue et de leurs institutions éducatives. Il ne faut pas oublier que la shul, comme on appelle la synagogue dans le monde ashkénaze, est une école où l'on apprend tout au long de sa vie.
Voilà. Et tu sais comment on dit chez les Polonais, les Russes, la shul? Le shil, hein, voilà, le ou est transformé en i, et au lieu d'aller à la choule, on va au shil. Voilà. Donc merci Léo, merci pour ces informations. Et je vais donc proposer à nos auditeurs, pour illustrer les talents de notre musicien méconnu, 3 courtes pièces tirées d'un enregistrement réalisé en 1998 à la synagogue de Laupheim, justement, à partir d'archives et collections privées retrouvées peu de temps avant, est mise à jour par les soins de la Société pour l'Histoire et la Mémoire de la ville de Laupheim. Ces documents sonores constituent un témoignage formidable de la vitalité et de la créativité qui existait avant la Shoah dans la plupart des villes, grandes et moyennes, où les communautés juives vivaient depuis les débuts du XIXe siècle dans une relative harmonie, et cela malgré les périodes plus ou moins difficiles qui ont secoué leur histoire jusqu'à la destruction presque totale de cet univers religieux culturel qui constituait le judaïsme allemand et dont l'Alsace-Moselle, par les vicissitudes de l'histoire, fait partie partiellement. Écoutons donc sans interruption 3 courts morceaux. Vezos HaToro, bref prière chantée immédiatement après la lecture de la Torah pour rappeler que c'est Moïse qui l'a donnée aux enfants d'Israël. Puis ce sera Yimloch Adonoi, le Seigneur régnera, qui est le dernier verset du psaume 146 qui sert aussi de clôture à la Kedusha, la prière de sanctification. Et enfin, Tikou Bachodesh Shofar, sonnez les shofars lors du mois des célébrations. Vous avez certainement pu apprécier la belle qualité de cette musique chorale, restituée ici par un chœur formé pour l'occasion et dans un effectif tel qu'il existait avant la Seconde Guerre mondiale, avec l'accompagnement de l'orgue qui était installé dans la synagogue de la ville depuis déjà un siècle avant sa destruction. La synagogue de Laupheim avait été inaugurée en 1825 et 25 ans après seulement, elle comptait déjà plus de 800 membres. Elle était donc à l'époque la plus grande communauté juive du Wurtemberg. Un document atteste que dès 1845, un chœur d'hommes et enfants à quatre voix existait déjà, tandis que le premier chazan professionnel attitré est mentionné déjà à partir de 1828. Donc, des belles choses qui apparaissent comme ça, qu'on croyait perdues à jamais, n'est-ce pas ? Mais qui, grâce aux recherches et à l'intérêt notamment des habitants de la ville, et on a pu retrouver. Nous allons donc écouter pour conclure notre émission aujourd'hui une très belle composition chorale de Moritz Henle. Mais avant, je voudrais demander à Léo de vous lire encore quelques renseignements supplémentaires sur la vie de Moritz Henle.
Donc son père, Elkan Henle, était maître vitrier. Il est très intéressé par l'art. Et donc le portail d'entrée au cimetière juif de la ville de Laupheim porte encore un beau témoignage de sa manufacture. Le petit Moritz, âgé de 12 ans, est admis à l'Académie de musique de Stuttgart pour étudier le piano, le violon et le chant. Entre l'âge de 14 et 18 ans, il étudie au lycée de la ville de Esslingen, où il apprend aussi la Chazanout. C'est ainsi qu'à la fin de ses études, il se voit offrir les postes d'enseignant à l'école juive et cantor à la synagogue de Laupheim. Ce fait ne doit pas surprendre car il s'agit d'une habitude de longue date dans la région d'engager des jeunes natifs méritants et bien formés. À ces deux activités du jeune Henle, il faut ajouter la direction d'une société chorale dans la ville et la création d'un chœur mixte pour la synagogue, en plus de ses activités de concert. Enfin, son talent était tellement reconnu que lors de la fin de la guerre franco-prussienne en 1871, il est sollicité pour composer un hymne au nom de sa ville pour célébrer la paix entre les deux nations. Les trois chœurs de la ville rassemblent sous sa direction pour chanter la nouvelle composition, celle d'un jeune musicien de 21 ans. Et puis, deux ans plus tard, Henle déménage à la ville d'Ulm pour prendre la charge du premier cantor dans toute la nouvelle grande synagogue. 6 ans plus tard, il est sollicité à nouveau, cette fois-ci par la ville de Hambourg, pour une charge similaire à la grande synagogue appelée Temple réformé dans la grande ville du nord de l'Allemagne, où il travaille jusqu'à la fin de sa vie aux côtés du rabbin natif de Laupheim, le docteur Max Zenger.
C'est ça.
Henle passe ainsi à Hambourg les 34 dernières années de sa vie. Il faut citer également son activité d'éditeur et de critique musicale, et notamment l'édition d'une Haggadah de Pessah, le livre contenant les textes du récit de la Pâque juive pour un usage familial, édité en 1913. Cette première édition sera suivie de plusieurs rééditions avec des mélodies composées par Henle lui-même et par Jacques Offenbach, le célèbre compositeur d'opéra comique disparu à Paris quelques décennies plus tôt.
Voilà, merci Léo. Donc beaucoup d'informations très intéressantes d'un personnage méconnu. Et comme il nous reste encore quelques minutes, on va écouter un dernier morceau, comme annoncé, Uvnu Choyomar, c'est la prière de la rentrée de la Torah, composé par Moritz Henle, le chœur du cercle musical de Laupheim et dirigé par Ludwig Schwedes.
Thank you.
Eh bien, chers auditeurs, merci de votre écoute. Merci Léo de ta participation.
Merci à toi.
Et à la prochaine.